Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.
Après un premier bivouac clandestin, notre pèlerin Jacquère continue au-delà de Saint-Sébastien. Heures et malheurs du pèlerin campeur. Les premières étapes du chemin, de la frontière jusqu'à Bilbao, m'ont battu comme ces poulpes que les pêcheurs attendrissent en les lançant sur le pavé des quais. Même sans ronfleur à mes côtés, je mettais du temps à m'endormir sur le sol dur, mais la chaleur du matin ignorait ces excuses et me sortait de mon sac de couchage dès le lever du soleil. Je devais d'ailleurs rapidement découvrir que, acheté en prévision de la haute route pyrénéenne, le dit sac était beaucoup trop chaud pour cette fin de printemps espagnole. Sitôt levé, assommé par le manque de sommeil, il me fallait marcher jusqu'à trouver un café ouvert. Le rituel du réchaud est par trop déprimant le matin, et dans ce pays pourvu de toutes les commodités, il n'y a pas vraiment de raison de vivre comme dans les espaces déserts de haute montagne. Le seul problème est la contradiction qui existe entre les lieux où le camping sauvage est possible et ceux où se rencontrent des cafés. Les quelques kilomètres qui séparent le coin de campagne choisi pour monter son bivouac de l'endroit où l'on pourra avaler un café crème sont parcourus chaque matin dans un coma profond qu'on ne savait pas compatible avec la marche. C'est en général le moment que choisit le chemin pour s'enfoncer dans des bois, suivre de délicieux petits sentiers que l'on ne demanderait qu'à admirer, à condition qu'il ne soit pas 6 heures du matin et qu'on ait le ventre calé. Des sources, des torrents sont çà et là signalés aux pèlerins pour qu'ils puissent boire et se laver. Celui qui n'a pas eu la possibilité de prendre une douche dans une auberge doit saisir la chance quand elle se présente. Il m'est arrivé certains matins de me plonger dans l'eau glacée alors que le chemin n'avait pas encore daigné me faire passer par un bistrot. Ce qui, à un autre moment, pourrait passer pour un plaisir, devient un surcroît d'accablement. Lorsqu'enfin on parvient à traverser un village et à avaler quelque chose, la fatigue, le manque de repos, l'impression de macérer dans des vêtements sales vous rendent insensible au coup de fouet de la caféine et toute la journée se passe dans une permanente gueule de bois. Le chemin, à travers l'Euskadi, longe la côte. Des stations balnéaires aux noms imprononçables alternent avec des portions de rivages désertiques. Mes souvenirs sont rendus flous par la nausée persistante du marcheur débutant. À leur surface flottent des images sans cohérence. Des cafés touristiques sur un front de mer hautement raffiné, avec couples promenant des chiens, cyclistes nonchalants et anglais attendant l'heure du premier verre en cachant mal leur impatience, des routes longeant la mer et les rochers d'une digue, les maisons luxueuses d'une station balnéaire, fières d'avoir vu naître le grand couturier Balenciaga, des vallons d'un vert cru, au creux desquels étaient posées de coquettes maisons blanches. Il faut toujours se méfier des régions vertes. Une végétation si drue, une verdure si éclatante ne peuvent avoir qu'une origine, la pluie. Si les paysages de cette première semaine restent confus, je garde, en revanche, un souvenir très précis des averses qui se sont abattues sur mon dos en Pays basque. À Deba, j'ai dû faire halte dans un hôtel pour faire sécher tout mon attirail. Ce fut l'occasion pour moi d'inaugurer le rythme qui serait le mien tout au long du chemin. 2 ou 3 jours de camping, puis une chambre dans un petit hôtel. Déjà lié malgré moi par le vœu de pauvreté du pèlerin, je me rassurais en pensant que le prix de la chambre étant égal à environ 3 fois celui d'une nuit d'albergue, je ne dépensais pas plus qu'un jaquet normal. C'est sur cette portion du chemin que je devais rencontrer les lieux de bivouac les plus extraordinaires. Ainsi ai-je dormi dans une crique entre 2 falaises, à un endroit où des couches de rochers arasées par l'érosion marine plonge comme les dents d'un gigantesque peigne dans la chevelure des vagues. Des lignes parallèles de pierres roses et gris glissent depuis le rivage en direction de l'horizon. Quand la mer est basse, on peut marcher sur cette voie sacrée pavée de roc, entre lesquelles frissonnent des lignes d'eau. J'eus droit, en ce lieu, à un coucher de soleil somptueux. Les derniers rayons de l'astre partaient de l'horizon et venaient jusqu'à moi en suivant les rails dessinés par les rochers à la surface de la mer. Le ciel était d'un bleu pur. J'avais presque recouvré une conscience normale, car un repas à l'hôtel, la veille, m'avait requinqué. Je me laissais aller à un certain optimisme. Ma tente était soigneusement dressée en bordure des falaises, dans un champ. Les paysans l'avaient quittée à la tombée du soir, en portant sur l'épaule les longs râteaux dont ils se servaient pour ramasser les foins. La nuit s'annonçait calme, et avec un peu de chance, le sommeil viendrait. Là, une heure plus tard, une tempête sortie d'on ne sait où fouettait la côte, avec une violence inouïe, et je passais la nuit à retenir ma tente que le vent voulait emporter. De nouveau trempé, nauséeux, épuisé, je me mis en marche aux premières lueurs du jour. Les rochers qui griffaient la mer prenaient une teinte grisâtre sous la pluie. D'après mes calculs, il n'y avait aucun café avant 4 kilomètres. Solitude. Pendant ces premières étapes, je suis restée seule ou presque. J'ai croisé quelques rares pèlerins et m'en suis tenue éloignée. Le fait de ne pas dormir dans les auberges est un handicap majeur dans le monde assez grégaire des marcheurs de Compostelle. Dans ces points de rassemblement, on est contraint de faire connaissance grâce à différents rituels comme le choix du lit, en haut ou en bas. Décision grave qui amorce, en général, une première conversation. Sur le chemin du Nord, le nombre réduit de pèlerins a pour conséquence qu'on n'en rencontre pas ou très peu pendant que l'on marche. Si l'on est assez rapide, il arrive qu'on dépasse des individus ou des groupes. On commence par les voir longtemps de dos. Une coquille pendue sur leur sac bat la mesure à chaque pas. On se rapproche et au moment de doubler, on lance le « bon camino » rituel. Ce n'est pas de l'espagnol, mais un espéranto utilisé aussi bien par des Allemands que par des Australiens. Il ne signifie absolument pas que la personne parle le castillan, et si vous embrayez avec une phrase dans la langue de Cervantes, il y a tout à parier que le pèlerin va secouer la tête et montrer son embarras. Je m'accommodais très bien de ma solitude. Elle me paraissait même nécessaire pour s'imprégner du nouvel état d'errance et de dénuement qu'imposait le chemin. Quand j'apercevais des couples ou des groupes, il me semblait qu'il leur manquait quelque chose pour éprouver tout à fait la condition de pèlerin. Comme dans ces stages linguistiques où l'on n'apprend pas la langue du pays si l'on est accompagné de compatriotes, il me semblait impossible de s'acclimater vraiment au pèlerinage si on ne vivait pas jusqu'à l'extrême le silence, la rumination, l'abandon à la crasse, auquel nul voisinage familier n'impose de bornes. Aussi ai-je gagné mes premiers galons dans l'ordre de Compostelle, en observant une scrupuleuse solitude pendant les premiers jours. Mon visage s'est couvert d'une courte barbe, mes vêtements se sont maculés de boue et de divers aliments répandus pendant que je faisais la tambouille par terre, et mon esprit, martelé par la marche, a perdu ses plis habituels, s'est embrumé de nausées et de fatigue, jusqu'à subir la grande transmutation qui en a fait bientôt le mental d'un pèlerin véritable. Des choses sans importance auparavant, et que parfois même on ignorait avant de partir, prennent peu à peu une énorme place. Repérez les signes qui vous permettent de vous orienter, faire des provisions pour les repas, découvrir, avant qu'il ne soit trop tard, le terrain plat où l'on pourra monter sa tente. Réfléchir à ce que l'on porte sur le dos et qui est encore trop lourd sont des activités qui s'emparent du jaquet au point d'en faire leur esclave nuit et jour. À mesure que la transformation s'opère, on devient à la fois complètement étranger à ce que l'on était avant et prêt à rencontrer les autres.
C'était Immortelle Randonnée, de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.